l'option Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de l'éventualité d'un troisième mandat pour Alassane Ouattara. Sera-t-il candidat en 2020? La question n'en finit pas de faire débat en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons ensemble donc dans une trentaine de minutes, d'autant que le président assure que la nouvelle constitution lui permet de remettre les compteurs à zéro et donc de faire deux mandats supplémentaires. En tout cas, pour l'instant, Alassane Ouattara entretient le flou sur cette possibilité. Tout dépendra, dit-il, de la situation de la Côte d'Ivoire en 2020, et d'ajouter, la stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. Alors que vous inspire ce scénario? Dites-nous si la situation en Côte d'Ivoire pourrait justifier effectivement de repousser l'alternance. 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos messages, vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Vous êtes déjà plusieurs centaines depuis le week-end dernier à nous envoyer vos réactions. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction. C'est votre rendez-vous privilégié avec nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Et vous avez été nombreux depuis vendredi à nous contacter après donc l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, condamné, rappelons-le, en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. L'ancien vice-président a donc vu sa culpabilité annulé en appel devant la Cour pénale internationale. Alors on va vraiment consacrer ces 20 minutes au dossier Jean-Pierre Bemba, aux conséquences, aux répercussions, à son avenir politique. Florence Maurice, correspondante permanente de RFI à Kinshasa, est avec nous. Bonjour Florence.
Bonjour à tous.
À mes côtés en studio, Léa Lisa Vesteroff et Pierre Pinto du service Afrique de RFI. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et on passe tout de suite au standard avec une première question. Nira Ben, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour Léa Lisa.
Alors, vous nous appelez d'Afrique du Sud, vous êtes à Pietermaritzburg, dans la province du KwaZulu-Natal. On vous écoute.
Oui, ma question est celle de savoir comment le juge de la chambre de première instance a pu commettre de telles erreurs, invoquer un appel.
Alors effectivement, vous avez été plusieurs d'ailleurs à nous poser cette question et même à nous dire clairement comment des juges aussi compétents, des juges aguerris ont-ils pu commettre les graves erreurs invoquées en appel par la Chambre vendredi dernier, Lisa Vesteroff, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre.
Oui, alors la première chose que ça montre, hein, je crois, c'est que finalement, le droit est quand même souvent une question d'interprétation. Ce qui peut être considéré comme juste pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. C'est révélé de façon extrêmement extrême dans ces deux verdicts, mais c'est clairement ça. Et la preuve, c'est que il faut rappeler que cette chambre d'appel a statué sur des vices de procédure. Hein. Elle n'a pas statué sur le fond et sur la légitimité de ces accusations, mais sur la façon dont les juges de première instance avaient été en mesure de démontrer cette culpabilité. Et au sein de la CPI, certains disent, sans doute avec amertume, hein, que ces juges ont été extrêmement rigoristes, ont eu une vision très rigoriste de la procédure, et qu'en effet, ça risque d'être très très dur à l'avenir de continuer à faire des enquêtes en termes de justice internationale si ces juges sont aussi sévères, ont une lecture aussi rigoriste de la loi. Exemple, ils ont noté par exemple qu'il y avait eu une erreur de procédure entre la notification et la confirmation des charges pour Jean-Pierre Bemba. Ils ont aussi reproché aux juges de première instance d'avoir écarté de possibles circonstances atténuantes sans justification. Par exemple, Jean-Pierre Bemba avait écrit aux représentants des Nations Unies en Centrafrique en l'alertant sur les crimes qui étaient commis, en parlant de la nécessité de faire des enquêtes. En copie était le Premier ministre centrafricain. Pourquoi est-ce que ce courrier a été jugé insuffisant comme mesure pour arrêter les crimes commis? Selon la Chambre d'appel, il n'y a pas eu assez de justification pour expliquer cela. Donc c'est globalement sur ces faiblesses de justification que la Chambre d'appel a émis ce verdict et a montré à quel point une nouvelle fois le droit illimité et sujet d'interprétation. Ouais,
et on rappelle qu'il y a 2 ans, pour justifier son verdict, la CPI avait invoqué la notion de supériorité hiérarchique. Autrement dit, en tant que chef de milice, Jean-Pierre Bemba était responsable donc des exactions commises par ses troupes en Centrafrique. Et il s'était vu à l'époque accusé de ne pas avoir ni puni ni empêché les crimes. Et effectivement, la cour d'appel a dit mais c'était compliqué pour lui de punir directement ses crimes. Sa marge de manœuvre était somme toute assez réduite puisqu'il n'était pas au moment des faits sur le territoire centrafricain.
Voilà, c'est exactement sur ce point-là que les juges d'appel ont été particulièrement sévères en disant est-ce que Jean-Pierre Bemba a pris toutes les mesures nécessaires pour arrêter ses crimes? Les juges de première instance ont jugé que non. Les juges de la chambre d'appel ont estimé que en première instance, il n'avait été pas prouvé suffisamment qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires. Et un dernier mot peut-être pour montrer à quel point tout ça est quand même tout de même relatif, c'est la division au sein des 5 juges de cette chambre d'appel. Ils étaient 5. Il faut savoir que un juge était pour un nouveau procès, 2 juges étaient en faveur de l'acquittement, 2 juges étaient contre. Finalement, c'est l'un de ces deux-là qui s'est rallié à l'avis des premiers en faveur de l'acquittement, qui a fait pencher la balance pour l'acquittement. Mais voilà, pour montrer que tout ça était quand même controversé et difficile.
Il n'y a pas eu unanimité au sein des juges,
voilà,
mais
pas
au final, majorité. Effectivement. A-t-on répondu à votre question, Niraben?
Oui, je crois que la question a été bien répondue. Est-ce que cette faiblesse pourrait être coûteuse pour cette cour?
C'est toute la question qui se pose maintenant. En effet, je le disais, la CPI est très embêtée. Elle le dit elle-même. Il va être extrêmement difficile de faire des dossiers d'instruction, de mener des enquêtes. Si ensuite, on a des juges aussi rigoristes qui démontent tout sur des vices de procédure. Pour ce qui est des mesures prises, je pense que c'est encore trop tôt. La Cour pénale internationale est elle-même encore sous le choc. Il va falloir voir dans les semaines qui suivent si des réformes sont prises ou s'il y a une conséquence concrète de ce verdict.
On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour également à Florence Maurice et à Pierre Pinto.
Et voilà, et Léa-Lisa Vesterov qui sont avec nous ce matin et qui vous répondent en direct. Vous êtes à Lubumbashi, nous vous écoutons.
Voilà, maintenant avec cette remise en liberté de bien que provisoire de Jean-Pierre Bemba, est-ce que cela peut-elle mettre fin au projet de l'opposition d'une candidature unique à la présidence de 2018 dans
oui.
Notre pays?
Oui, alors c'est une excellente question. C'est vrai que l'acquittement de Jean-Pierre Bemba et sa probable libération à 6 mois de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo rebat les cartes de la politique congolaise et surtout les cartes de l'opposition. Bonjour Florence Maurice, c'est une
Bonjour.
Question pour vous, vous qui êtes sur place et qui voyez comment les uns et les autres réagissent au sein de l'opposition. Est-ce que cette nouvelle donne peut effectivement mettre fin au projet de l'opposition d'une candidature unique en décembre?
Alors c'est intéressant cette question parce que c'est plutôt des appels au rassemblement derrière la candidature de Jean-Pierre Bemba qu'on entend dans les rues de Kinshasa, en tout cas depuis son acquittement. Mais bien évidemment, Antoine a raison, ce n'est pas si simple. L'opposition congolaise est plutôt réputée pour sa difficulté à se rassembler. Ces derniers temps, les différents candidats déclarés de cette opposition ont témoigné de leur volonté d'y arriver, mais cela faisait déjà beaucoup douter les observateurs et on peut se dire a priori qu'avec un homme de plus dans le jeu, eh bien ça ne va pas simplifier les choses. Lors de son meeting samedi dernier, Moïse Katumbi a réaffirmé par exemple son souhait d'une candidature commune avec, c'est son expression, son frère Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, mais il n'a pas mentionné Jean-Pierre Bemba, dont il a tout de même salué l'acquittement en parlant d'un soulagement.
Enfin, il faut dire tout de même, Florence Maurice, que peu s'attendaient à ce scénario.
Et oui, c'est vrai, une remise de peine et une libération, certains l'envisageaient, mais dans ce cas, Jean-Pierre Bemba serait resté condamné pour crime contre l'humanité, et donc il était exclu de facto de la course à la présidentielle. Son acquittement change la donne, et si tout le monde comptait bien sur son parti, le MLC, dans ses calculs politiques, la question jusqu'à présent, c'était plutôt de savoir quel candidat allait obtenir son ralliement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tous allés le voir dans sa prison de La Haye, hein. Félix Kamerhe y est allé, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, pardon, et comme si tous cherchaient à se faire adouber par lui en vue de la présidentielle, pensant qu'il serait absent.
Et sait-on justement si au cours de ses entretiens à La Haye, dans sa cellule, des arrangements politiques ont été passés?
Alors, tout le monde n'a pas la même version sur ce point, ce qui en dit long. Certains disent en off avoir reçu des assurances de soutien. Du côté du MLC, en tout cas, Fidel Babala, le secrétaire général adjoint du parti, assure que Jean-Pierre Bemba écoutait tout le monde, mais n'avait rien promis à personne, et que déjà, depuis sa prison, il prenait plutôt le rassemblement de l'opposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ces candidats avaient été le voir. Après tout, il était parti depuis 10 ans. Une élection en RDC, Rouen, c'est aussi des calculs géographiques. Et si on regarde les forces en présence, on a Moïse Katumbi, populaire dans le Katanga et dans une moindre mesure dans le nord du pays. Vital Kamerhe, populaire à l'est. Et Félix Tshisekedi, surtout dans le centre, hein, même si son père, lui, était populaire dans tout le pays. Si on regarde la structure du parti UDPS, il n'est pas implanté de la même manière partout. Et donc, Jean-Pierre Bemba, lui, a ce dont les autres ont besoin. La popularité dans l'ouest du pays. C'est là qu'il avait fait le plein des voix en 2007. Et pour beaucoup, en RDC, aujourd'hui, après 17 années de Kabila, le pouvoir doit revenir à l'ouest. Voilà, donc rallier l'électorat de Jean-Pierre Bemba, c'est pas rien pour faire contrepoids à la machine électorale et de la majorité présidentielle.
Et on a pu entendre sur notre antenne vendredi, lundi, lors des émissions spéciales consacrées à cet acquittement, le chercheur américain Jason Stearns, qui disait sur notre antenne, si dans un sondage qu'il a mené, Moïse Katumbi était par exemple très populaire dans le nord du pays, c'était surtout, selon lui, parce qu'il cherchait quelqu'un pour battre Kabila et qu'il n'y avait que Moïse Katumbi qui était là.
Voilà, c'est là où l'aura de Jean-Pierre Bemba, qui semble dépasser encore celle de ses camarades en dépit de son absence, rentre en ligne de compte. Maintenant, est-ce que le réalisme politique va l'emporter sur les égos? C'est toute la question. Qui va accepter de céder son fauteuil à qui? Il ne faut pas oublier non plus que Jean-Pierre Bemba, lui, avait soutenu Étienne Tshisekedi en 2011, mais que Moïse Katumbi en 2006, quand Jean-Pierre Bemba était candidat, lui, était dans le camp de Jean-Pierre Kabila. Et puis, pour le moment, si Jean-Pierre Bemba est remis en liberté provisoire, sa candidature reste incertaine. Il y a aussi, on ne sait pas encore quand il pourrait rentrer. Il y a aussi ce qui s'est passé en 2007. Il y avait eu des affrontements à Kinshasa entre la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba et l'armée nationale. Le gouvernement congolais l'avait à l'époque accusé de trahison. Voilà, tout cela en inquiète certains. Et même si dans son camp, on estime que rien ne s'oppose désormais à sa candidature, on peut penser aussi que les leaders de l'opposition vont peut-être déposer en nombre leur candidature fin juillet, ça commence le 25 juillet, et attendre ensuite de voir ce qui se passe avant éventuellement de se rassembler.
Et on aura l'occasion d'en parler vendredi dans la Libre Antenne, puisque nombreux sont les auditeurs justement à souhaiter commenter les répercussions politiques sur le terrain après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Autre question, Antoine?
Oui, justement, Juan, j'aimerais aussi savoir, vu que le gouvernement de la République centrafricaine s'est dit consterné par la décision de la Cour pénale internationale, est-ce que la RCA pourrait-elle organiser maintenant des procès sur son territoire pour juger notamment les auteurs des crimes commis entre 2002 et 2003?
Alors ça, c'est une question pour Pierre Pinto qui suit le volet centrafricain de cette affaire. Antoine a raison de parler de consternation, notamment chez les victimes. Il faut quand même rappeler, c'est important Pierre Pinto, que c'est le gouvernement centrafricain en 2005, et en l'occurrence François Bozizé, qui avait saisi la Cour pénale internationale pour les crimes commis par les hommes de Bemba. À l'époque, les autorités centrafricaines disaient « Seule la CPI a vraiment les moyens de diligenter des investigations ». Aujourd'hui, après l'acquittement, est-ce que la Centrafrique pourrait organiser des procès?
Alors en fait, depuis 2015, il y a en Centrafrique, on en parle souvent sur l'antenne, une cour pénale spéciale, une cour chargée de juger ces crimes internationaux, c'est-à-dire les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide commis depuis le 1er janvier 2003. C'est son mandat. Donc ça couvre en fait la fin de la période en question, puisque les troupes de Bemba ont quitté la Centrafrique en mars 2003, lorsque Bozizé a pris le pouvoir au terme d'une rébellion de plusieurs mois. Cette cour se met progressivement en place et doit d'ailleurs commencer ses premières enquêtes prochainement, mais elle a un travail colossal, donc, puisqu'elle a surtout été créée en fait pour juger les responsables de la crise actuelle, celle qui a démarré en 2013 et qui continue aujourd'hui, mais donc elle pourra aussi se pencher sur cette période de 2003.
Et cette cour spéciale pourra pallier aux manquements, aux erreurs de la CPI dans ce dossier?
Alors théoriquement, elle ne pourra pas juger Jean-Pierre Bemba, puisqu'il a été acquitté et qu'on ne peut juger deux fois une personne pour les mêmes faits. Donc sur quel cas se pencher? Ange Félix Patassé, le président centrafricain de l'époque, qui a appelé Jean-Pierre Bemba à la rescousse contre les rebelles de Bozizé, est mort en 2011. Il reste d'autres protagonistes. On a parlé de Mustapha Moukiza, qui, selon les témoins à la CPI, servait d'interface entre Bemba et ses hommes sur le terrain en Centrafrique. Lui n'a pas été inquiété par la CPI. Il est aujourd'hui général au sein de l'armée RD congolaise. Il faudrait donc que la CPI puisse obtenir son extradition, ce qui semble très difficile. Et puis, il y a les alliés de Patassé et du MLC, Abdoulaye Miskine, alias Martin Koumtamadji, qui était à la tête d'un groupe armé qui était aux côtés du MLC et du président Patassé. Il vit aujourd'hui au Congo-Brazzaville et est impliqué dans le processus de DDR en Centrafrique. La garde présidentielle de Patassé aurait, elle aussi, commis des exactions. Et puis, il y aurait eu aussi des crimes commis du côté des partisans de Bozizé à cette époque. Tout cela pourrait faire l'objet donc d'enquêtes pour voir dans quelle mesure ces crimes ont été commis et pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Bref, tout cela mérite que la Cour pénale spéciale se penche sur la question. Pour l'instant, la CPS garde le silence. Il faut dire que on l'a suffisamment répété depuis le début de l'émission, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba a pris tout le monde de court.
Si jamais, Pierre Pinto, cette Cour pénale spéciale décidait d'enquêter sur les crimes commis en 2003, elle ne partirait pas de zéro.
Non, alors il y a de nombreux rapports d'ONG de défense des droits de l'homme, comme la FIDH par exemple. Il y a aussi l'imposant travail fait par l'ONU de mapping, c'est-à-dire de recensement des crimes commis en RCA depuis 2003. Un mapping qui justement a été fait pour servir de base de travail à la Cour pénale spéciale. Et puis un porte-parole de la CPI l'expliquait il y a quelques jours à notre envoyée spéciale à La Haye, Sonia Rollet. Rien n'empêche que la Cour pénale internationale transmette sous certaines conditions les éléments de son dossier d'instruction à la CPS. Quant aux autorités centrafricaines, elles pensent, elles, davantage aux plus de 5000 victimes qui se sont portées partie civile dans ce procès Bemba. Ce matin, sur RFI, vous l'avez peut-être entendu, le ministre de la Justice centrafricain, Flavien Mbata, n'a pas voulu s'exprimer au nom de la Cour pénale spéciale, mais il a passé un message. Notre vœu est que tous les auteurs, co-auteurs ou complices, quel que soit leur rang, soient jugés par la CPS, la Cour pénale spéciale. Il appelle aussi à ce que ces victimes soient tout de même indemnisées par le fonds au profit des victimes, cet organe de la CPI prévu à cet effet, en appel au soutien de la communauté internationale. Selon nos informations ce matin, la CPI devrait d'ailleurs demander l'accélération d'un déblocage $1 million au profit de ses victimes.
À suivre donc. Et puis cet entretien de Flavien Mbata est à réécouter sur notre site et notre application RFI.fr. Alidor, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les investisseurs.
Vous êtes à Kinshasa.
Bien sûr. Juan, lors du premier procès en appel, l'on a constaté qu'il y a eu glissement des erreurs graves. Et en conséquence, le sénateur congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté de toutes les charges dont il était poursuivi. Alors, Juan, ma question est de savoir, Jean-Pierre Bemba sera-t-il dédommagé pour cet arrêt, entre guillemets, arbitraire de 10 ans passés derrière les barreaux?
Alors Léa Lisa Vesterov, c'est une question pour vous. C'est une remarque qui est souvent revenue sur la page Facebook de l'émission. Va-t-il bénéficier de dédommagement pour ses erreurs judiciaires?
C'est en tout cas une possibilité qui lui est ouverte. L'article 85 des statuts de la Cour pénale internationale le prévoit. Le texte dit quand une condamnation définitive est ultérieurement annulée, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi. Cette demande doit être faite par écrit à la présidence dans les 6 mois. 3 juges seront ensuite chargés de l'examiner. Alors, Jean-Pierre Bemba va-t-il faire cette demande? Son entourage affirme que oui, que le préjudice subi est important. Ses comptes ont été bloqués au Portugal, son avion aussi. Son avocate, elle, affirme qu'aucune décision n'a encore été prise là-dessus. En tout cas, rien d'automatique dans ce cas-là. Il faut vraiment en faire la demande. Et la Cour pénale internationale cite par exemple l'exemple de Mathieu Njugolo Chui, cet ex-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo, ancien commandant du mouvement rebelle FRPI, de l'Ituri. Il avait été acquitté en première instance en 2012, un acquittement confirmé ensuite en 2015, mis en liberté provisoire. Il avait réclamé 900 000 euros de dommages et intérêts au titre de ce fameux article 85, mais rien obtenu, car les juges j'avais considéré qu'il n'y avait pas d'erreur de droit. Et ça va être toute la question dans ce cas-là, parce que je crois qu'il y a peut-être... on a le sentiment, en effet, qu'il y a eu des erreurs graves qui ont été commises, vu ce renversement subi, mais Est-ce que ce sont des erreurs de procédure? Sur le fond, c'est là toute la question. Est-ce qu'il y a une erreur de droit? Ça va être assez juge d'en statuer si cette demande est faite.
En tout cas, merci de l'analyse, Léa-Lisa Vesteroff. Merci à Pierre Pinto. Merci également à Florence Maurice. On a pris quelques-unes des nombreuses questions. Mais pour ceux qui étaient déjà au standard, ne vous inquiétez pas. On vous rappellera demain ou en début de semaine prochaine. 10h30 à Paris à suivre le journal. Et on revient dans 10 minutes pour le débat du jour.